With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
L'atelier de Constantin Brancusi. Brancusi est un homme de légende qu'il a souvent lui-même forgé. Lorsqu'il faisait visiter son atelier, celui qu'on va découvrir ici, il recouvrait souvent les sculptures de grands draps noirs qu'il arrachait ensuite d'un geste théâtral devant ses admirateurs. Il y avait l'ami de toujours, Marcel Duchamp, le compositeur Éric Satie, l'artiste peintre Fernand Léger, le photographe Man Ray ou encore le poète et compatriote Tristan Tzara et tant d'autres qui sont passés par ici. La légende veut justement que Constantin Brancusi soit arrivé à Paris à pied, en 1904, de sa Roumanie natale, après avoir traversé Vienne, Zurich, Bâle, attrapé une pneumonie, survécu grâce à des petits boulots. Déjà enfant, il voulait fuguer. Il voulait quitter la campagne où son père l'avait placé chez un apprenti tonnelier. Il avait à peine 7 ou 8 ans. Il y parviendra d'ailleurs. À 11 ans, il rejoint Craiova, la grande ville voisine de sa campagne, après avoir marché 3 jours et 3 nuits en dormant dans les arbres pour échapper, soi-disant, aux loups. La légende est donc forgée. Il se fera seul grâce à l'amitié d'un cafetier qui l'embauche, grâce à l'intelligence de sa ville aussi qui lui octroie une bourse, grâce, évidemment, à son obstination qui le mène d'abord aux Beaux-Arts de Bucarest, puis aux Beaux-Arts de Paris. Il ne quittera plus la capitale française. Hébergé chez des compatriotes, il dégote un atelier rue Montparnasse et puis en 1916, il s'installe impasse Ronsin dans le 15e, d'abord au numéro 8, puis au numéro 11 qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort. Et c'est cet espace transposé ici que nous fait visiter à présent André Avril, conférencier au Centre Pompidou.
Cet atelier est exactement une reconstitution de l'atelier qui existait à Montparnasse au début du siècle. Il s'est installé assez tôt dans cet atelier, je crois que c'est dès 1916, je crois. Et il y est resté jusqu'à la fin de sa vie. Mais l'atelier, en fait, s'est profondément modifié dans ses dimensions, puisqu'au départ, il n'avait pas les quatre espaces que vous pouvez voir lorsqu'on fait le tour de la reconstitution qui a été faite par Enzo Piano. Et au départ, il n'a que deux pièces. Il en a une, puis il en a eu deux. Et puis finalement, il y a eu deux autres pièces
qu'il a pu récupérer.
Mmh. Oui. Et si cet atelier-là, c'est parce que Brancusi l'a décidé aussi. Il en a fait don à l'État français, mais sous condition quand même que cet atelier puisse être constitué à l'identique après sa mort. Et là, bien entendu, pour Brancusi, c'était tout à fait essentiel, puisque à partir du moment où il a considéré que l'atelier était une sorte d'œuvre d'art à part entière, il fallait préserver, bien entendu, l'intégrité des sculptures et leur relation au sein même de cet espace.
Alors ça nous amène effectivement au deuxième mot-clé, enfin à la deuxième idée, quand on regarde tous ces espaces, c'est effectivement que Brancusi a travaillé sur des séries.
Oui, et très peu finalement de séries. Si on regarde, il y a la série très imposante, là, des colonnes sans fin, il y a la série des muses, qui est très importante, il y a le baiser aussi, qui est allé jusqu'à la dimension monumentale, on pourrait dire. Et puis, il y a la série de l'oiseau, du poisson, et peut-être que la série la plus essentielle pour lui était la série des oiseaux, parce qu'elle commence assez tôt, dans les années 10.
On a un premier exemple ici.
On a, juste après les coques, on voit les coques, et puis il y a l'angle du mur, et puis il y a sur le socle en bois, cette sculpture en marbre gris-bleu qui est là, et qui ne s'appelle pas l'oiseau, qui est la maestra. La maestra fait très directement référence à des contes, légendes roumaines. Et c'est une sorte d'oiseau fabuleux qui a une sorte de capacité à permettre aux amants qui ont été séparés de se retrouver. Il a aussi une capacité de métamorphose, de transformation. Donc là, il y a eu cette série de la maestra, mais très très vite, il va quitter cette relation à l'oiseau, qui est encore tout à fait perceptible, hein, je trouve. Là,
on voit que c'est un oiseau.
On le voit, on voit presque les pattes, on voit le plumage qui est replié derrière, on voit le torse, on voit presque le bec. Enfin, il y a encore, je dirais, une sorte de représentation presque de l'oiseau qu'il va quitter très vite, hein, parce que très vite, la sculpture ne sera pas la possibilité pour lui de la représentation d'un modèle. Et donc, il va passer à une autre série qu'il va appeler l'oiseau. On en a un exemple qui est là, juste sur la cheminée. Là, on n'a plus finalement qu'une sorte d'ellipse de torse bombé, de direction comme ça ascensionnelle, qui est beaucoup plus forte. Il pousse quand même cette sorte de corps d'oiseau sur un cône.
Cône est dissocié de l'oiseau. Enfin, ce ne sont pas ses pattes, par exemple.
Je ne pense pas qu'il pense la sculpture de l'oiseau en ces termes-là, à ce moment-là, c'est-à-dire entre pattes, corps. Je pense que ce qu'il recherche, c'est davantage cet élan du vol. Cette sorte de propulsion comme ça de la forme à l'intérieur du vide de l'air, quoi. Enfin, mais là, il n'est pas très satisfait, en fait, dans cette série, parce que finalement, l'oiseau est encore ancré dans le sol, quoi. Il a encore un poids, il a du mal à décoller, on va dire. Et je crois que ça vient tout simplement des formes elles-mêmes, hein, notamment du cône, je pense, qui lui-même est posé sur une autre forme géométrique, qui lui donne une sorte de statut, peut-être encore d'objet à regarder, qui sera, je pense, plus du tout visible avec ce qu'il appellera l'oiseau dans l'espace.
En fait, ici, dans l'atelier, on voit un exemple d'oiseau dans l'espace.
Dans l'espace, il y en a beaucoup, oui. Oui, il y en a pas mal. Alors, il y en a un.
Donc là, on est revenu dans la première salle.
Oui, voilà, quand on rentre dans l'espace. Alors là, on est juste à l'endroit où se trouvait la porte de l'atelier.
Donc, il faut se mettre face à l'oiseau, justement, qui est devant un rideau rouge. Enfin.
Oui, exactement. C'est-à-dire que là, on rentrait dans l'espace de l'atelier et première chose qu'on voyait, c'était cet oiseau dans l'espace, en bronze poli, et qu'il va intensifier dans sa vibration, hein, ici, par cette couleur rouge qui est juste derrière, qui sert de fond et en même temps qui exacerbe complètement la luminosité à la surface du bronze poli. Hein. Alors, peut-être que les plus beaux oiseaux, celui-ci est magnifique en bronze, hein, mais sont ceux qui ont été réalisés en marbre, parce que, je dirais, le marbre est presque un matériau qui s'oppose à toute idée d'envol, de légèreté, de vibration. Enfin, le marbre est lourd quand même. Hein. Donc, je trouve qu'il y a presque une sorte de contradiction, de paradoxe. Comment parvenir au sein d'une matière qui est lourde, qui a un poids, a un élan, une fragilité, une sorte d'apesanteur, d'ascension comme ça dans l'espace. C'est là que je trouve assez magnifique le travail de Brancusi, c'est-à-dire sur la matière. C'est-à-dire qu'il arrive pratiquement à une dimension alchimique. Par son geste, par le polissage, il parvient à modifier la perception même qu'on a de la matière.
Là, on a quand même changé du tout au tout. Ça ressemble plus aux espaces qu'il y a de l'autre côté, on a l'impression.
Non, effectivement, de l'autre côté, on avait toutes les sculptures, toute la relation des sculptures les unes avec les autres. Ici, on est dans l'espace de travail, c'est-à-dire qu'on a des blocs de pierre qui ont été commencés, qui apparemment n'ont pas été aboutis. Et c'est quelqu'un, bon, on n'en a pas parlé, mais c'est quelqu'un qui vient quand même, il faut le dire, hein, qui vient d'un monde rural, archaïque, hein, quand même, hein, romanique. Il a une relation au monde qui n'est pas celle de Rodin, hein, quand il arrive à Paris.
Il a travaillé avec Rodin.
Oui, il a travaillé avec Rodin. Il a travaillé très peu de temps, je crois, avec Rodin. Il a rencontré Rodin au moment où il sortait juste, hein, de l'École des Beaux-Arts de Paris. Et puis, dans une exposition, Rodin le remarque et lui demande de venir travailler dans son atelier. Et très vite, il va se rendre compte que, d'abord, rien ne pousse à l'ombre des grands arbres. Et puis qu'ensuite...
Ça, c'est Brancusi qui le dit.
C'est Brancusi qui dit ça. Et puis, surtout, la pensée, la relation qu'ils ont à la sculpture, mais à la matière, en réalité, est très, très différente. On a d'un côté quelqu'un comme Rodin, qu'on peut considérer comme un artiste au sens premier du terme, c'est-à-dire comme un démiurge, quelqu'un qui part du chaos de la matière, en l'occurrence de la terre, et qui arrive à une forme. Puis, de l'autre côté, on a Brancusi qui, lui, estime que la matière, en fait, impose sa propre pensée. Et que lorsqu'on travaille de la sculpture, il faut que la main de l'artiste pense, bien entendu, mais qu'elle pense en suivant la pensée propre de la matière. Et qu'en suivant cette pensée propre de la matière, Brancusi se rend compte qu'il arrive à des formes qui sont de plus en plus simples et épurées. C'est bien au-delà de l'intention presque, on pourrait dire, de l'artiste d'imposer ces formes-là. Je dirais que tout l'enjeu peut-être dans la sculpture de Brancusi, il est là. Il est dans cette sorte d'équilibre très très instable entre la volonté de l'artiste d'induire et d'inscrire une forme et la capacité du matériau à absorber cette forme.
Et il y a effectivement parfois des formes qui résistent, comme les oiseaux brisés qu'on voit ici par terre. Il faut se dire que ce que Brancusi a réussi, ces oiseaux dans l'espace qui mesurent parfois 1,90 m, sont fichés dans leur socle par une tige de métal qui ne dépasse pas les 6 cm. Un véritable prodige d'équilibre.
Ceci était un podcast du Centre Pompidou. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute et ses réseaux sociaux. À bientôt.